France Info.
Bonsoir, soyez les bienvenus dans cette heure de débat, les informés de France Info. Informés de France Info consacrés bien sûr aux Gilets jaunes, à ce cinquième samedi de mobilisation. Moins de monde, c'est un fait, moins de violence. Des Gilets jaunes étaient encore réunis aujourd'hui sur les ronds-points en région, au péage autoroutier, devant des centres commerciaux. Des Gilets jaunes qui, dans les manifestations, réclamaient aujourd'hui le RIC, un référendum d'initiative citoyenne. Est-ce la solution pour sortir de cette crise politique? Eh bien, on va en débattre dans un instant avec nos informés que je vous présente tout de suite. Bonsoir. Bonsoir, Christine Claire.
Bonsoir.
Journaliste, éditorialiste, et vous avez publié l'an dernier, on va en parler, un livre intitulé « J'ai vu cinq présidents faire naufrage » aux éditions Robert Laffont. Bonsoir, Plantu.
Bonsoir.
Dessinateur de presse, faut-il le rappeler, à la une du Monde, dans les colonnes de l'Express, président de Cartooning for Peace, et vous publiez en cette fin d'année au Seuil 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter, livre de dessins d'actu, mais aussi et surtout avec des réflexions et un entretien avec Dalil Boubaker, le recteur de la mosquée de Paris. On va en parler. Bonsoir Hélène Risser.
Bonsoir.
Journaliste à Public Sénat, vous animez, je le rappelle, l'émission Hashtag, l'émission qui décrypte la communication politique sur les réseaux sociaux. C'est bien voilà. Ça. Bonsoir également un familier de l'émission, Pierre Jacquemin, journaliste, bonsoir. Rédacteur en chef du trimestriel et du site regard.fr. Soyez les bienvenus dans ces informés de France Info. Donc on va faire le bilan de ce cinquième samedi de mobilisation. Bilan chiffré, 66 000 manifestants, moins d'interpellations, moins de garde à vue, un peu plus d'une centaine à Paris. On rappelle qu'il y avait la semaine dernière, samedi dernier, à cette heure-ci, plus de 1000 arrestations. Christine Claire, on est loin de l'extrême tension des deux derniers samedis. C'est le bilan que l'on peut faire aujourd'hui?
Écoutez, apparemment, il y a beaucoup de gilets jaunes ou sympathisants qui n'ont pas voulu la violence et qui se sont retirés peut-être physiquement, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils aient renoncé à leurs espérances et à leurs revendications. Je pense que maintenant, le mouvement peut peut-être prendre une autre forme et justement sous la voie électorale.
Hélène Risser, comment expliquer cette faible mobilisation? Est-ce qu'on peut faire une agglomération c'est l'approche de Noël, il y a eu l'attentat de Strasbourg, il y a eu les propositions du chef de l'État cette semaine, et puis est-ce que c'était la manif de trop?
C'est difficile, ce que disait Christine Kerr, effectivement, entre peut-être la peur des violences, peut-être une forme de lassitude, peut-être aussi quand même les annonces d'Emmanuel Macron, et puis l'ouverture d'un débat, de discussions qui vont être coordonnées pendant 3 mois. Après, la question de la forme, et vous disiez la forme va peut-être évoluer, moi j'ai quand même l'impression aujourd'hui que c'est aussi l'échec de la transformation du mouvement, puisqu'on a vu qu'il y a eu des tentatives pour faire émerger des porte-paroles, des représentants, des revendications. Et en fait, à chaque fois qu'une tête émergeait, on va dire qu'elle a été coupée et que le mouvement a eu beaucoup de mal à se coordonner. Et j'anticipe peut-être sur le débat sur la révolution, dont on parlera, pardon, ce n'était pas fait exprès. Mais voilà, peut-être aussi que le mouvement s'essouffle parce qu'il n'arrive pas à s'incarner autrement que dans ces blocages de ronds-points et ces manifestations qui ont dérapé ces derniers week-ends.
Plantu, est-ce que les images de violence des samedis 1er et 7 décembre ont également pesé sur le moral des gilets jaunes, ces images de violence, les dégradations?
Oh, certainement, parce que je suis sûr que la plupart n'avaient pas envie de se retrouver avec des voisins violents, ça c'est sûr. Mais je crois que quand je dessine malheureusement de Jupiter à Gulliver et que je montre un petit Macron qui est ficelé comme Gulliver par des petits personnages en jaune, il est quand même un peu ficelé. Il a beau dire tout ce qu'il veut quand il est dans son allocution à la télévision, c'est quand même un président qui ne pourra pas faire comme avant. Il est un peu ficelé. Et il est ficelé non seulement, j'aurais pu rajouter d'ailleurs, quand je mets mes petits gilets jaunes ficelant le petit Gulliver, qui n'est plus Jupiter, eh ben j'aurais pu rajouter des ordinateurs et des réseaux sociaux. Je crois que si je refaisais le dessin, le héros de l'affaire, c'est...
Les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux.
On va en parler. Pierre Jacquemin, est-ce que c'est ce soir la fin du mouvement ou est-ce qu'il va y avoir une pause avec la trêve de Noël, comme l'on dit, et ça peut reprendre au mois de janvier?
Je ne crois pas que le mouvement, en tout cas, surtout, je ne crois pas que la colère qui s'est exprimée à travers les mobilisations de ces derniers mois vont cesser. La colère des individus, la colère des gilets jaunes, certes, sans doute, certains d'entre eux sont rentrés chez eux, mais leur colère, elle est toujours intacte. Je peux comprendre aujourd'hui, quand on fait une première manifestation, c'est le cas pour beaucoup de gilets jaunes, c'est leur première grande manifestation de rue, c'est leur premier engagement. Je peux comprendre que face à un attirail répressif tel qu'il a été déployé par l'État et le ministère de l'Intérieur, on puisse avoir peur. C'est impressionnant quand même.
Il y avait trois à quatre fois plus de forces de l'ordre sur
la place parisienne qu'il n'y avait de manifestants. Donc je comprends que ça puisse inquiéter, que ça puisse freiner la mobilisation. Mais je ne crois pas, encore une fois, qu'on réponde à la question sociale par la question répressive. Et la seule réponse répressive, en tout cas, risque de nourrir d'autant plus cette frustration face aussi à l'indifférence d'Emmanuel Macron et aux revendications des gilets jaunes.
Oui, juste un petit bémol sur la. Enfin, moi, je réagis à ce que vous dites parce que vous avez l'air de dire qu'effectivement le dispositif policier était peut-être disproportionné, c'est ce qu'on entend dans ce que vous dites. En même temps, on ne savait pas et les prévisions étaient complètement incertaines sur le nombre de manifestants qu'il y allait avoir. Et donc, on aurait fait exactement le reproche. Enfin, voilà, on aurait reproché au gouvernement de ne pas avoir mobilisé autant de forces de l'ordre que la semaine dernière si ça n'avait pas été le cas. Donc, je pense que voilà, c'était très difficile d'anticiper et de prévoir.
La grande peur du pouvoir et de tout le monde, c'était qu'il y ait des morts. Donc, pour qu'il n'y ait pas de moins de morts possible ou pas de mort du tout, il fallait évidemment un service d'ordre important.
Il ne s'agit pas de parler que du déploiement des forces de l'ordre, il s'agit de parler aussi de la violence parfois qui s'exerce sur les manifestants.
Je ne sais pas, il se trouve que moi j'étais en contact avec des femmes en Normandie, qui font partie de ces femmes qui font 80 km par jour et qui déjeunent dans leur voiture. Qu'est-ce qui les inquiète? C'est la vraie violence dont les gilets jaunes sont accusés ou dont ils sont la cause. Et puis elles ont une petite fille qui va travailler à la boulangerie. La boulangerie est obligée de fermer, donc la petite fille, elle aura pas son travail pour Noël. Et puis, je veux dire, tout le monde, les individus ne sont pas seuls, ils sont liés. Ils ont des frères et sœurs qui peuvent être dans une entreprise qui est obligée de fermer. Ils voient des magasins dévalisés, détruits, et ils se rendent bien compte que c'est. Enfin, il y a un esprit révolutionnaire. Il y a de vraies raisons à ça. Et je pense pas que ça retombe de sitôt. Mais en même temps, il y a quand même beaucoup de gens qui ne veulent pas participer à ces violences.
Il y a 8 morts.
8 morts dans des accidents. On va poursuivre ce débat et évoquer la question politique de la journée. Mais avant cela, à 20h11, très précisément, on fait un nouveau point sur l'info avec vous, Claire Flochel.
Mobilisation en baisse et plus calme des gilets jaunes. 66 000 manifestants à travers la France contre 126 000 la semaine dernière. Mobilisation en retrait dans plusieurs villes comme à Paris, Rennes, Caen, Strasbourg ou Toulouse. Stable mais faible à Lyon. À Nantes, quelques 1200 personnes ont manifesté sous une certaine tension. 2 policiers ont été blessés. La Ligue 1 de football encore perturbée par le mouvement des gilets jaunes. 18e journée prévue ce week-end et une seule rencontre au programme. C'est en ce moment, depuis 10 minutes, Reims est contre Strasbourg. Un match qui a débuté par une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg. 4 jours après cette attaque de Strasbourg, la garde à vue des parents et d'un des frères de Chérif Chekat, le tueur abattu jeudi, est levée. Il reste donc 4 proches de Chérif Chekat en garde à vue ce soir. Par ailleurs, les Strasbourgeois sont appelés par plusieurs associations à un rassemblement citoyen demain matin, place Kléber, en hommage aux victimes. Le bilan s'est alourdi hier avec un 4e décès, un journaliste italien. L'Australie reconnaît à son tour Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël. Une décision irresponsable, disent les Palestiniens. C'est le 6e pays à suivre les États-Unis dans cette direction. Mais l'Australie ne déménagera pas ses diplomates avant qu'un accord de paix soit conclu. Et puis de la neige et du verglas attendus dans les Hauts-de-France. 4 départements placés en alerte orange jusqu'à minuit. L'Aisne, le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme.
France Info.
Les informés. Pierre Neveu.
Dans ces informés de France Info, on continue à évoquer cette 5e journée de mobilisation, de manifestation. À la mi-journée, place de l'Opéra à Paris, des gilets jaunes de la France en colère ont pris la parole pour dénoncer la pression fiscale, le gaspillage de l'argent public. Des gilets jaunes qui réclament le RIC, il va falloir vous habituer au RIC, le référendum d'initiative citoyenne. C'est la revendication politique de cette journée.
C'est la revendication principale parce que si on arrive à avoir le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne, derrière c'est le peuple qui prend le pouvoir et du coup au final on pourra avoir toutes les revendications qu'on demande. Donc il y a 42 revendications, ça fait énorme. On sait, moi je sais très bien que le gouvernement ne peut pas forcément tout plier d'un coup. Par contre, si on arrive à modifier la Constitution, l'article 3 de la Constitution, et avoir le RIC, derrière, toutes les revendications sont pliées et sont pour nous.
Alors, le RIC ou le RIC, Pierre Jacquemin, est-ce que ce référendum d'initiative citoyenne, il faut bien que ça entre dans nos mémoires, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est la solution politique du moment de sortie de crise?
En tout cas, ça faisait partie d'une des raisons de la colère. Je pense qu'il y a la raison sociale, effectivement, et qui a été très importante. C'est la raison
il y a d'abord
première,
la raison sociale.
Mais je pense que derrière les critiques, qui étaient effectivement celles de la question du pouvoir d'achat, du mieux vivre et du juste de pouvoir se loger, se nourrir, il y avait aussi la question démocratique. On a entendu dans la parole des Gilets jaunes une critique du politique, une défiance du politique, une défiance des syndicats. Et donc, la question de la représentativité politique est importante. La question du RIC, qu'on appelle le référendum d'initiative citoyenne, référendum d'initiative populaire ou je ne sais quoi encore, on l'a entendu pendant l'élection présidentielle, beaucoup des candidats à l'élection présidentielle proposaient d'ailleurs cette
de initiative. De Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon.
Exactement. Je pense qu'on doit s'interroger sur les règles démocratiques. On voit bien qu'aujourd'hui, on arrive à une fin de cycle de nos règles démocratiques. La Ve République finit par être épuisée et que donc il faut réinventer des règles. Il y a des questions de la proportionnelle, il y a la question peut-être du tirage au sort des citoyens. Il y a cette question du référendum qui ne réglera pas tout. Si on ne fait que ça, ça ne réglera pas tout parce que je ne crois pas qu'on puisse répondre par un oui ou par un non à des questions qui sont des questions sociétales, par exemple. Donc du coup, ça ne réglera pas tout. Mais en tout cas, je pense qu'ils ont raison de poser la question démocratique et la question des règles du jeu démocratique dans notre pays.
Christine Claire.
Je crois que ça ne réglera rien du tout. Enfin, je ne sais pas quelles peuvent être les sujet d'ailleurs, suppression de l'ISF, évidemment que tout le monde, rétablissement, évidemment que tout le monde va voter pour, etc. Mais alors départ de Macron, je pense pas que tout le monde votera pour, et ça ne réglera rien. Quel est le problème? Le problème, c'est des inégalités sociales croissantes qui ont explosé depuis 20 ans, voilà, auxquelles aucun président n'a pu, de Mitterrand à Macron en passant par Hollande, personne n'a réussi à guérir ce mal. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où elles explosent. Voilà, on est dans un monde capitaliste où elles explosent. Et c'est pas un hasard si justement le scandale Carlos Ghosn a éclaté à ce moment-là, et on a découvert, redécouvert que les grands patrons du CAC 40 avaient des augmentations absolument faramineuses, pendant que le marché mondial de la main-d'œuvre, lui, tire vers le bas. C'est ça le problème. Et il n'est pas uniquement français. Il se trouve que la France a une vieille tradition révolutionnaire et que peut-être ça explose en France un peu avant les autres. Mais c'est un mal qui est répandu partout. Et c'est pas par un référendum où on va demander quoi? Le doublement du SMIC pour tout le monde, le départ de Macron. Et ça arrivera à quoi? Je pense à Victor Hugo qui disait la misère mène le peuple à la révolution et la révolution l'y ramène. Je pense que, il me semble que c'est plutôt en faisant des états généraux, en faisant une vaste concertation, peut-être
arriver
des élections législatives avec une introduction de proportionnelle, mais un référendum,
on voit bien d'ailleurs,
ça va guérir les maux dont nous sommes malades.
On voit ce qui s'est passé avec le Brexit d'ailleurs, qui était un référendum. On voit que ça n'a pas. Et puis voilà, le résultat d'un référendum à l'instant T n'est pas toujours. Mais voilà. Mais ce qui est intéressant, enfin je trouve, et d'ailleurs c'était très intéressant d'écouter cette personne là qui expliquait voilà pourquoi finalement le qu'on entend des gilets jaunes mais demander des mesures concrètes. Et tout d'un coup, on voit ce référendum d'initiative citoyenne, on se dit, mais c'est pas si concret que ça. Et on voit bien, effectivement, l'espoir, c'est qu'on va pouvoir, effectivement, diminuer les impôts, augmenter les prestations, etc.
Un référendum décisionnel et non plus un référendum pour légitimer le président.
Et l'idée, en plus, parce que la question qui se pose aujourd'hui, telle que ça existe, c'est la question de savoir à l'initiative de combien de personnes doit être proposé ce référendum, quel serait le rôle du Parlement. Évidemment,
faut changer la Constitution.
Oui, voilà. Mais enfin là, les revendications telles qu'elles s'expriment, c'est vraiment fait à l'initiative de relativement peu de citoyens. Donc l'idée, ce serait de pouvoir faire énormément de référendums sur beaucoup de sujets. Mais pour moi, ça pose aussi une autre question, c'est-à-dire que ce serait finalement faire comme si la France pouvait décider de manière franco-française des sujets. On va faire un petit référendum là-dessus, un référendum là-dessus. Mais le problème, et vous parliez du système capitaliste mondial, c'est qu'on voit bien que aujourd'hui, c'est au niveau européen que doivent se prendre beaucoup de décisions, et notamment pour lutter contre l'évasion fiscale, pour lutter contre les paradis fiscaux, pour taxer les GAFA, toutes ces revendications qui ont émané aussi de ce mouvement pour plus de justice. Et comment le référendum initiative citoyenne peut-il régler les problèmes au niveau européen? Je pense que là, il y a, à mon avis, une illusion, un faux espoir.
Plantu, justement, la démocratie directe, c'est une utopie? C'est j'ai l'impression que c'est le sujet de la soirée.
Je trouve que la question...
Il y a le en même temps, mérite, on a envie, et le en même temps, c'est difficile.
D'être soulevé. Moi, ça me dérange pas et ça me choque pas que des Français aient envie de soulever la question. C'est peut-être une proposition qui est tout à fait intéressante. En tout cas, elle exprime une frustration. Et cette frustration, comme vous disiez, aucun des présidents depuis longtemps n'a réussi à régler le problème de ce que j'ai appelé un petit Pôle emploi qui pousse toujours son petit caddie vide et qui est décidément toujours vide et à qui on ne demande pas toujours son avis. De temps en temps, on propose un vote législatif, présidentiel, mais à la fois, il continue à avoir son caddie vide. Ensuite, je reviens toujours sur mon petit Pôle emploi avec son caddie vide. Qu'est-ce qu'on lui dit? À chaque fois qu'il veut intervenir depuis des années, il dit au secours. Et dans mon dessin, il y a toujours marqué « Revenez plus tard ». Ce dessin-là, je l'ai fait au moins 15 fois depuis 10 ans. « Revenez plus tard », à chaque fois, il y a une bonne raison. Alors là, c'est vous le faites exprès, c'est la Coupe du Monde, et on ne parle que de la Coupe du Monde. Ensuite, on ne parle que de l'affaire Benalla. Ensuite, on ne parle que de telle ou telle situation qui fait le haut de... Et pendant ce temps-là, on ne parle pas de ces gens-là qui sont frustrés. À la fin, ils commencent à utiliser, ils mettent leur gilet jaune. Là, tout d'un coup, il y a un président, comme sur le dessin, là, il commence à s'intéresser à eux. Mais finalement, il dit « Ah, ben, finalement, on m'écoute quand j'ai un gilet jaune. » Et les gamins qui l'accompagnent, ils regardent toujours son caddie. Il est toujours vide. Et du coup, quand je vois cette frustration et qu'ils ont envie de voter, je me dis « Mais oui, mais allez voter quand on vous propose de voter. » Or, il y a beaucoup d'abstentionnistes. Oui.
C'est l'éternel problème. On va poursuivre ce débat très intéressant, illustré à la télévision sur le canal 27 de la TNT par vos dessins plantus. Et puis à la radio, ce qui est magnifique avec vous plantus, c'est que vous pouvez les commenter et nous les faire voir par votre voix, par vos explications. Merci à vous plantus. On poursuit ce débat sur France Info à 20h20. Mais avant cela, on fait un tour de l'info avec vous, Claire Flochel.
66 000 manifestants contre 126 000 le week-end dernier. Mobilisation en baisse des gilets jaunes. Les manifestations se dispersent actuellement à Paris et en région. Sur les routes, quelques difficultés ont perturbé la circulation, comme sur l'A7, l'échangeur de Bolène, dans le Vaucluse, coupé dans les deux sens de circulation. Des opérations de blocage et de filtrage également sur l'A9 dans l'Hérault ou sur l'A10 entre Paris et Poitiers. Au total, les manifestations des gilets jaunes ont provoqué de fortes perturbations sur plus d'une vingtaine d'autoroutes, selon Vinci. Un député LREM de l'Eure porte plainte après des coups de feu devant son domicile hier soir et une tentative d'intimidation de 40 gilets jaunes. Des menaces de mort à peine dissimulées selon lui. On vient de l'apprendre, les gardes à vue des 4 membres de la famille de Chérif Chekat ont été levés. Le père, la mère et les 2 frères du terroriste présumé de Strasbourg étaient en garde à vue depuis la nuit de l'attentat. Il y a 4 jours, ils ont été libérés en l'absence d'éléments les incriminant. À ce stade, précise le parquet de Paris. Et puis aux États-Unis, ce nouveau départ dans le gouvernement Trump, celui du ministre de l'Intérieur, Ryan Zinke, très critiqué pour ses dépenses excessives. En moins de 10 jours, le président américain a déjà nommé un nouveau ministre de la Justice, une nouvelle ambassadrice à l'ONU et un secrétaire général de la Maison-Blanche par intérim.
France Info. Les informés, Pierre Neveu.
Avec vous quatre sur ce plateau des informés, on poursuit notre débat autour du RIC, du RIC, le référendum d'initiative citoyenne Pierre Jacquemin. On entend bien ce soir, et on l'a vu depuis plusieurs semaines, tout cela, au niveau politique, c'est parce que les Français, gilets jaunes, ont le sentiment de ne plus être entendus, écoutés, devenus invisibles.
Oui, je pense qu'il y a une part de vérité dans ce constat. Je pense que quand je disais qu'on arrivait à une fin de cycle démocratique, c'est qu'on peut pas à la fois s'émouvoir ou en tout cas s'inquiéter de voir qu'à chacune des élections, le taux d'abstention continue de progresser. Et en même temps, quand on a une population, des visages qui apparaissent à la télévision ou à la radio, qui s'expriment, qui étaient des invisibles qu'on n'entendait pas et qui disent on a un besoin de démocratie directe, on a un besoin d'être écouté. Encore une fois, le RIC, tel qu'il est aujourd'hui expliqué, il va pas régler l'ensemble de la 5e République, il va pas régler les choses. Je suis d'accord avec vous. C'est pas par un oui ou par un non qu'on répond à des questions qui sont des questions importantes du 21e siècle. Ça, c'est une certitude. En revanche, il y a une chose que je trouve assez intéressante dans la démarche du RIC, parce qu'il y a quatre volets. Il y a le volet législatif, il y a le volet constituant, et puis il y a un volet révocatoire. Je trouve intéressant. J'entendais une femme l'autre jour qui disait Macron nous a bien facilité les licenciements dans les entreprises. Pourquoi on ne permettrait pas de faciliter les licenciements de nos élus?
Là, on coupe la tête du président. Pourquoi effectivement
les citoyens n'auraient pas ce pouvoir par
ils l'ont déjà fait avec les législatives.
Ils ont viré le PS, ils ont viré l'UMP.
On peut effectivement considérer
que le temps de mandat
est le temps bon pour pouvoir
faire vivre la démocratie. On peut aussi estimer qu'il y a un système démocratique de démocratie directe qui peut aussi exister. Et c'est ça qui est demandé aujourd'hui à
travers
ce RIC.
Ça s'appelle la 4e République où il y avait des gouvernements qui restaient 15 jours.
Je vous dis qu'on doit interroger ce système de la 5e République.
Avec l'accélération des informations et des mentalités, on risquerait d'avoir des gouvernements qui changent tous les 15 jours. Et on a vu ce que ça donnait sur la 4e République.
C'est le risque de la proportionnelle qui est proposée aussi.
Vous êtes pour la proportionnelle?
Je suis pour une dose de proportionnelle.
Oui, on est dans un système totalement... Je suis pour qu'il y ait plus de proportionnelle. Je comprends tout à fait. Qu'il y ait plus d'extrême gauche et d'extrême droite.
Que ce qui se passe à l'Assemblée nationale représente effectivement le programme électoral. Je ne suis pas sûr que la 5e République soit plus représentée.
Vous êtes tout à fait le droit de le représenter.
Je ne sais pas si vous savez que le peuple est plus représenté à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, mais j'en sais rien. En tout cas, je suis pour que le peuple soit mieux représenté à l'Assemblée. En revanche, ce que disent les Gilets jaunes, c'est qu'ils veulent un processus.
Vous savez très bien qu'il y aura plus d'extrême gauche et d'extrême droite. Pourquoi pas? Mais allez jusqu'au bout de votre raisonnement.
Ce que je pense, c'est qu'effectivement, il faut que le peuple soit mieux représenté à l'Assemblée nationale. Et en revanche, ça doit aussi passer par un processus constituant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que les citoyens qui décident effectivement d'en réinventer une démocratie, elles se réinventent par eux-mêmes et non plus par des politiques.
Mais peut-être faut-il effectivement qu'il y ait davantage de représentants de l'extrême gauche et de l'extrême droite s'ils comptent dans le pays. Parce qu'il faut peut-être mieux s'exprimer au Parlement que de s'exprimer dans la rue. Il est vrai qu'on a tout fait pour les étouffer. Il faut reconnaître que le scrutin majoritaire a tout fait pour les étouffer et qu'il faut probablement introduire une dose de proportionnelle, laquelle, en tout cas, suffisamment pour que ces gens aient l'impression d'être représentés, qu'ils aillent de nouveau voter, qu'ils aient l'impression que les députés les représentent. Il est vrai qu'il y a un vrai problème, là. Mais ça ne va pas résoudre tout de suite le problème de la misère. La 5e République
avec une dose de proportionnelle plus importante, ça reste la 5e République. Oui. Moi, j'ai l'impression que finalement, le principal problème et la demande qui s'est exprimée là, et on voit très bien, d'ailleurs, Emmanuel Macron a incarné, et d'ailleurs, ça s'est beaucoup vu sur les réseaux sociaux, toute la colère, et c'était vraiment, et d'ailleurs on le voit bien dans cette demande de référendum d'initiative citoyenne, c'est une fois de plus le peuple face au monarque. Et c'est de nouveau ce face-à-face
Personne n'a le monopole du peuple.
Mais justement,
ça montre bien... 66 000 manifestants contre 66 millions de Français.
Mais justement, c'est pour je termine, ça montre bien justement ce problème qui se pose à mon avis, et c'est là qu'il faut sans doute trouver une solution, c'est de sortir de ce face-à-face du monarque et du peuple, qui est effectivement le gros problème de la 5e République, en retrouvant, et c'était d'ailleurs là-dessus qu'Emmanuel Macron avait fait sa campagne, une forme, entre guillemets, d'horizontalité, de faire revenir dans le jeu les corps intermédiaires, et notamment aussi les maires, qui ont été, moi j'étais très frappée de voir quand Emmanuel Macron refuse, alors que la crise, entre guillemets, dite des Gilets jaunes avait déjà bien démarré, d'aller s'exprimer devant l'Assemblée des maires de France. Et on voit bien que là, il y avait effectivement de sa part, je pense, une incompréhension de la nécessité de faire rentrer ces acteurs dans le jeu, parce que sinon, je pense qu'il n'en sortira pas grand-chose, RIC ou pas RIC.
Rapidement, Plantu, est-ce que les Gilets jaunes, ont ringardisé les politiques, les syndicats, tout ce que l'on connaît depuis de nombreuses années?
Je pense qu'aujourd'hui, la situation, c'est un peu comme disait Lénine, vous savez, le communisme, les soviets et l'électricité. Là, je crois que le mouvement qui a lieu en ce moment des Gilets jaunes, c'est un peu la démocratie plus les réseaux sociaux. Et donc, c'est les réseaux sociaux qui sont en train de damer le pion aux médias, et les médias sont à la remorque des réseaux sociaux. Et à la fin, c'est le ressenti qui existe. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ce dessin il y a 15 jours avec l'Arc de Triomphe et puis les barricades. barricades et il y a un fossé qui s'est creusé entre un président. Alors on peut le regretter ou pas le regretter, mais on peut que constater qu'il y a un fossé entre le président et les Gilets jaunes.
On va poursuivre ce débat. Il a été question des réseaux sociaux. On va en parler dans la deuxième partie de l'informé. Il a été question de cet aspect révolutionnaire français. On va en parler avec vous quatre. Restez avec nous. On se retrouve dans 3 minutes. Mais d'abord, on fait un nouveau point sur la météo et l'info. À tout de suite.
Avec le pack Open Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux.
Moi, avec le forfait Orange 50 Go, je révise mes chants de Noël en streaming.
Et ben moi, avec le forfait Orange 50 Go à 9,99€, j'envoie mes vidéos de Noël à toute ma famille.
50 Go de vidéos par mois, on va avoir le temps de s'occuper. Hein.
Avec Orange, profitez du forfait mobile 50 Go pour clients pack Open à 9,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 24,99€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 8 janvier 2019, 15€ par mois remboursé pour les nouveaux clients. Engagement 12 mois, conditions sur orange.fr.
Restez connectés à France Info.
Toute l'actualité, des alertes, des vidéos avec l'application mobile
France Info.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, récoltés à la main par les petits producteurs dans le respect de la biodiversité. À retrouver sur malongo.com.
On regarde la carte du ciel de ce dimanche avec vous Jean-Michel Golinski, Météo France.
Demain, c'est une masse d'air beaucoup plus douce qui va englober le pays. L'après-midi, la moyenne des températures sera de 9 degrés sur une large moitié nord, 11 dans le sud-ouest, 13 autour de la Méditerranée, sous un ciel pluvieux toute la journée entre la Corse, les Alpes du Nord, le Massif central et le sud de l'Aquitaine, avec de la neige à haute altitude sur les Pyrénées et le sud des Alpes, vers 1200 mètres sur les Savoies et le Massif central. Plus haut, il y aura pas mal d'averses près de la Manche en matinée, sur la façade atlantique l'après-midi avec des coups de tonnerre et un vent d'ouest sensible. Du centre au bassin parisien en allant vers le Grand Est, les grisailles seront suivies d'un peu de soleil. Remarque importante pour la nuit prochaine, il va neiger à basse altitude dans les vallées alpines, parfois jusqu'en plaine sur l'Alsace. Il faudra donc se méfier des chaussées glissantes sur un large quart nord-est, sachant que le nord, le Pas-de-Calais, l'Aisne et la Somme sont maintenus en vigilance orange, neige et verglas jusqu'en milieu de nuit.
Vous écoutez France Info, il est précisément 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
L'info avec Julien Langlais.
La mobilisation des Gilets jaunes marque clairement le pas après ce cinquième samedi de manifestation. 66 000 manifestants dans toute la France. Selon le ministère de l'Intérieur, c'est moitié moins que samedi dernier. Moins de tensions, d'interpellations aussi, un peu plus de 200 en Ile-de-France contre 1 000 000 le week-end dernier. Il n'était d'ailleurs que quelques milliers à défiler dans la capitale sous l'œil d'un dispositif policier très présent et de Nadia aussi, toujours présente. C'est la cinquième fois qu'elle vient manifester à Paris.
Cet air narquois et hautain avec ce petit sourire, je ne peux plus me l'encadrer, je ne peux plus me le voir. Voilà, c'est mon avis. Hein.
Mais c'est surtout les solutions
Aucune solution. Personnellement, je suis en CDI, hein, donc je perçois un SMIC et un tout petit peu plus avec les primes. Mais je ne suis pas concernée par les mesures qu'il a présentées. Le coût de la CSG, par contre, ça touche mes parents, donc là, j'en suis un peu satisfaite. Mais c'est que juste retour de ce qu'il aura supprimé. Donc aucun cadeau, là, il n'a fait aucun geste pour moi. C'est que du blabla ce qu'il nous a fait.
Et donc vous allez comme ça manifester jusqu'à quand ?
Continuer. Tant que force sera là. Je suis pour ce fameux référendum de la citoyenneté, la dissolution de l'Assemblée nationale. Il faut que tout ça cesse. Donc le référendum, il faut qu'il soit mis en place, validé par M. Macron, qu'il le veuille ou non, parce que c'est plus possible.
Voilà, une manifestante à Paris, alors qu'en région, les cortèges ont été plus fournis. Environ 5000 personnes ont défilé à Bordeaux, 4500 à Toulouse. Quelques échauffourées ont éclaté. Une vingtaine de personnes ont été interpellés, des incidents aussi à Nantes ce soir où 2 policiers ont été blessés et une quinzaine de personnes appréhendées. Un rassemblement citoyen sera organisé demain, place Kléber à Strasbourg, un hommage aux victimes de l'attentat qui a tué 4 personnes et fait 12 blessés mardi dernier. Rassemblement à l'appel de nombreuses associations mais aussi de partis politiques. Par ailleurs, dans l'enquête, la garde à vue des parents du principal suspect shérif Chekat, abattu jeudi soir dans le quartier du Neudorf, a été levée. 4 proches de Chekat shérif Chekat reste encore en garde à vue ce soir. L'un de ses frères et trois membres, pardon, de son entourage. L'Aisne, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme sont placés en vigilance orange, neige et verglas par Météo France depuis 18 heures. Des pluies verglaçantes et parfois de fortes chutes de neige sont attendues cette nuit dans tous ces départements des Hauts-de-France. Reims reçoit Strasbourg. C'est le seul match de la 18e journée maintenu ce samedi. Les autres ont été annulés à cause des manifestations des Gilets jaunes. Trois autres matchs demain auront lieu entre Nîmes et Lille, Nice, Saint-Etienne et Lyon et Monaco. Quatrième journée de la Coupe d'Europe de rugby. Lyon a perdu 21-10 en Écosse. Succès de Toulouse 42-27 contre Londres. Et puis Castres a battu le Munster 13-12. 20h33 sur France Info. La deuxième partie des informés avec Pierre Neveu.
Les informés, Pierre Neveu.
À la deuxième partie des informés de France Info ce samedi soir avec Christine Claire. Je rappelle le titre de votre ouvrage publié l'an dernier chez Robert Laffont. On va en parler tout de suite. J'ai vu 5 présidents faire naufrage. Plantu, dessinateur de presse au Monde, à l'Express, président de Cartooning for Peace. On va parler de votre livre 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter aux éditions du Seuil. Sur ce plateau des informés, Hélène Risser, journaliste à Public Sénat, et Pierre Jacquemin, journaliste et rédacteur en chef pour le site regard.fr. Dans cette crise des gilets jaunes, le président de la République a été mis en danger. Christine Claire, je m'adresse à vous. Vous avez donc écrit l'année dernière, j'ai vu 5 présidents faire naufrage, avec ce sous-titre 20 ans pour être élu, 2 ans pour échouer. Est-ce que Emmanuel Macron s'ajoute à la liste de Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande?
Il a été élu beaucoup plus vite, donc c'est une exception. Et puis on peut dire aussi qu'il a tenu ses promesses, enfin il a fait ce qu'il a dit qu'il ferait, ce qui n'était pas le cas de Mitterrand, de Chirac, même de Hollande, pas du tout de Hollande.
Est-ce que l'état de grâce n'existe plus?
Je crois que l'état de grâce n'existe plus parce que les temps sont beaucoup trop difficiles, qu'on peut plus rien promettre et qu'on peut peu accomplir vu les circonstances internationales. Chaque fois, ils se sont heurtés à c'était soit la crise du pétrole, soit la conjonction internationale tout simplement qui fait que il y a plus dans que la croissance faiblit. Du temps de Gaulle, on avait encore des croissances à plus de 5%. Maintenant, quand on arrive à grignoter
1,3%, il va falloir se faire un monde sans croissance.
Voilà.
Hein,
il va falloir se faire un monde sans croissance.
Oui, mais
tous veulent y croire et veulent nous faire croire autre chose. Et puis, le choc des réalités arrive tôt ou tard.
Mais vous dites, oui. Finalement, il a fait ce pourquoi il a été élu. Moi, j'ai pas tout à fait l'impression, quand je vois la campagne qu'a fait Emmanuel Macron avec les marcheurs qui allaient recueillir l'avis des Français avec quasiment
oui, il y a peut-être
un programme
illusion,
qui est arrivé très tardivement, et la manière dont, du coup, dès le jour de son élection, il s'est mis dans cette posture ultra verticale, jupitérienne, etc. Pour moi, beaucoup de gens sont tombés de leur chaise, y compris des marcheurs convaincus de la première heure. Et je pense que là, il y a eu un gros malentendu parce qu'il y avait l'attente d'exercer la fonction
sociale. Il avait annoncé ce qu'il
oui,
ferait.
Mais dans cette crise des gilets jaunes, on voit aussi, et d'ailleurs, on l'a vu avec cette demande de référendum d'initiative citoyenne, que c'est aussi une crise du modèle de gouvernance. De cette verticalité, vous parliez des penchants révolutionnaires de
on
la
va
France.
En parler, on va en parler,
mais voilà. Mais en fait, on a l'impression que c'est ça qui se rejoue en permanence. Et Emmanuel Macron avait dit, d'ailleurs, bien avant d'être élu, je suis convaincu que les Français ont regretté d'avoir coupé la tête au roi. Sauf qu'avant de regretter, ils ont coupé la tête au roi. Et on a l'impression qu'on joue en permanence, non, qu'on
après,
rejoue éternellement.
Après, ils veulent un nouveau monarque.
Ils veulent un nouveau roi, voilà, et ils lui coupent la tête, et voilà.
Pierre Jacquemin, est-ce que si le président Macron avait eu un parti à l'ancienne, avec des fondations, avec des bases, est-ce qu'il aurait pu passer cette épreuve douloureuse, difficile?
Ah, il y a une chose de certaine, en tout cas, j'en ai la conviction, c'est que l'inexpérience d'Emmanuel Macron en tant qu'élu local, en tant que proche des réalités de ce que peut vivre un élu d'une petite collectivité qui fait face à toutes les demandes des citoyens, manque à Emmanuel Macron et manque aussi dans l'exercice de ses fonctions. Par ailleurs, la manière d'exercer les fonctions de président de la République et la manière dont il répartit les rôles finalement aussi au sein de son gouvernement, il n'a finalement dans son gouvernement que des technocrates ou que des super collaborateurs qui sont des super chefs d'administration finalement. C'est lui qui décide d'en haut et ça sans doute c'est un vrai problème et le problème de la crise démocratique que l'on vit c'est aussi la manière dont il incarne le pouvoir Emmanuel Macron. Et quand vous dites effectivement qu'au moins on attendait de lui qu'il fasse qu'il avait dit qu'il ferait. Je suis d'accord avec vous, on choisit un candidat pour ça. Mais à un moment donné, on ne peut pas échapper aussi au principe de la démocratie parlementaire d'abord et au principe de la démocratie sociale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi savoir discuter, tenir compte des demandes et des revendications des syndicats. Et c'est ça qu'a fait aussi Emmanuel Macron. Ouais. Et aujourd'hui, il se retrouve en tête à tête avec les Gilets jaunes, alors que normalement, la démocratie sociale, c'est aussi des négociations syndicales avec les partenaires sociaux, avec le patronat, les syndicats. Et ça a tué cette démocratie-là.
Un petit mot, vous disiez, c'est des relais, pardon, vous disiez sur l'ancrage local, je suis tout à fait d'accord avec vous, vous parliez des relais, et j'ai l'impression, enfin moi j'ai un petit peu travaillé sur cet ancrage local des précédents présidents de la République, et moi j'ai l'impression que c'est pas juste les relais, les contacts, c'est aussi la culture du compromis, de faire émerger un compromis, ce qu'on apprend dans les exécutifs locaux, après il faut pas forcément mettre 20 ans pour arriver à l'Élysée, mais en tout cas peut-être effectivement que c'est là qu'il a entre guillemets failli et péché.
Il faut connaître le pays dans sa diversité.
Le président de la République n'est plus le même aujourd'hui, il est plus sacralisé.
Ah, il est différent.
La photo réseaux sociaux.
Le temps peut arranger tout ça. Ce qui est sûr, c'est que on peut comprendre qu'au départ, il y avait une volonté écologique, c'est-à-dire penser à la planète au moment où on parlait du carburant. Et c'est vrai qu'on peut y penser. Et à la fois, on a parlé des frigidaires. Et c'est pour ça que j'ai décidé
sur votre dessin.
Une petite planète qui fond dans un frigidaire. Ça, c'est le constat écologique. Et puis à la fois, un petit gilet jaune qui montre son frigidaire vide. Et il y a une vague petite arête de poisson qui est au milieu. Et ça, je peux le comprendre. Là, il y a deux France qui se regardent et qui sont de temps en temps, c'est la même France, mais de temps en temps, c'est pas la même. Il peut reprendre la main à tel point que, alors que ça fait 15 jours ou 3 semaines qu'on entend qu'il y a des gens qui sont persuadés qu'il va démissionner, mais là, on va passer une nuit, là, ouais. Et puis, il y en a qui vont se réveiller demain. Et ben, il y a des gilets jaunes qui vont se réveiller, et puis, il y a la bonne femme qui regarde la télé, et il dit, alors là, ben, il est toujours là. Il est toujours là. C'est-à-dire que, on n'a pas arrêté d'entendre Macron démission, et puis il va rester. Et là, je suis encore étonné qu'on ait berné des gens à les laisser croire.
Il faut donner du temps au temps pour reprendre une expression célèbre.
Obtenir la démission du président.
Mais qui a laissé croire
On les a laissés dans l'erreur pour certains qui ne représentent pas la majorité des gilets jaunes.
Mélenchon et Marine Le Pen, non? Oui. Dans les deux cas. Parce que finalement, oui. C'est ces deux-là qui vont se disputer.
Et là, ça va faire des lendemains difficiles parce que, décidément, oui. Le président, il est toujours là.
Vous voulez dire que les leaders de l'opposition étaient irresponsables alors? C'est ça
Je trouve que laisser croire que à la fin, il va démissionner, c'est quand même dégueulasse de faire croire ça aux gens parce que finalement, quand on y raisonne, et s'ils sont bien entourés, ce qui n'est pas le cas forcément, si on leur dit, attends, il y a des institutions, il y a eu un vote, vous êtes exprimés, on peut ne pas aimer Macron, alors ça je le comprends.
Les leaders de l'opposition eux-mêmes,
je suis bien passé, je n'ai pas voté Macron. Mais je peux comprendre qu'on puisse ne pas aimer Macron, mais il y a aussi des gens qui ont voté pour lui.
On va poursuivre ce débat des informés de France Info, il est 20h40, l'essentiel de l'info avec vous, Claire Flochel.
Moins de gilets jaunes dans les rues aujourd'hui, 66 000 manifestants recensés dans tout le pays. C'est presque deux fois moins que samedi dernier. À Paris, ils étaient 4 000 au plus fort de la manifestation. À l'heure actuelle, il n'y a plus un seul gilet jaune sur les Champs-Élysées. Tous évacués à coups de canon à eau par les forces de l'ordre. Interpellation en baisse également dans la capitale, 168 contre 600 samedi dernier. À Bordeaux et à Toulouse, les canons à eau sont également entrés en action tout à l'heure. Bordeaux, où l'on a dénombré 4 500 gilets jaunes, 21 manifestants ont été interpellés. Certains avec des armes sur eux, telles que des matraques ou des battes de baseball. Dans la ville rose, la situation était tendue en fin d'après-midi. La place du Capitole et le marché de Noël ont dû être bouclés. Des casseurs ont mis le feu aux parasols des terrasses, selon nos confrères de France Bleu Occitanie. Course contre la montre à Katowice en Pologne. Les négociateurs de la COP24 se dépêchent de trouver un accord final avant la clôture de la conférence reportée à ce soir. Les États participants avaient jusqu'à hier pour dire comment mettre en application concrètement l'accord de Paris sur le climat, mais ils n'arrivent pas à s'entendre. Et puis le Français Martin Fourcade remporte la poursuite d'Orfilsen en Autriche, comptant pour la Coupe du Monde de biathlon. C'est la deuxième victoire individuelle du quintuple champion olympique cette saison.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Alors j'aimerais dans ces informés de France Info que l'on fasse un retour en arrière. On est le 31 décembre 2017, il y a presque un an. Emmanuel Macron est à l'Élysée, il présente ses vœux aux Français. Et dans son discours, il y a ces mots.
Toujours, j'écouterai, je respecterai,
et toujours, à la fin, je ferai. L'année 2018 sera à mes yeux celle de la cohésion de la nation. Nous nous sommes trop longtemps, trop souvent divisés. Je veux plus de concorde pour la France en 2018. La cohésion de la nation, ça n'est pas simplement le travail du président de la République, c'est le travail de chacune et chacun d'entre vous. Demandez-vous chaque matin ce que vous pouvez faire pour le pays. Dites-vous toujours que vous appartenez à un collectif plus fort, plus grand que vous, la nation française. Et c'est pour cela que j'ai besoin de vous.
Pierre Jacquemin, comment résonnent ces mots aujourd'hui, un an plus tard, le président qui dit « toujours j'écouterai, je respecterai, mais à la fin je ferai, l'année 2018 sera l'année de la cohésion ».
Je crois que c'est lui-même qui a tenu des propos très justes sur le constat qui est le sien. Il y a quelques jours ou quelques semaines, et quand il a fait son allocution télévisée sur ce bateau
Charles de Gaulle,
il avait dit « je n'ai pas réussi à réconcilier les Français avec leurs dirigeants ». Et c'est vrai que ça n'a pas été une réussite. Aujourd'hui, l'expression même de la mobilisation des Gilets jaunes révèle aussi cette distance, cette déconnexion, je pense, d'une certaine, je ne mets pas l'élite, il ne faut pas parler des élites, mais en tout cas de ce pouvoir politique avec les réalités de terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un papier très intéressant à lire dans Le Monde qui a été écrit par Florence Aubenas qui explique aussi ce qui s'est passé à travers cette mobilisation des Gilets jaunes et pourquoi ça prend. Il y a un besoin chez les Français de se retrouver, de créer du lien social, de créer de la cohésion, de discuter, de partager des expériences de vie, des misères, des fins de mois très difficiles. Et il s'est passé ça aussi autour des ronds-points. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et donc, ce lien social qui s'est construit, c'est aussi une réalité de ce qu'est aujourd'hui notre pays et de ce qu'est aussi la France et de ce qu'avait perdu sans doute la France. Donc ce qu'a fait Emmanuel Macron, en clivant aussi une partie de la population française, il a réussi à organiser des réseaux de solidarité. Et c'est ça qui est assez extraordinaire à travers cette mobilisation, au-delà de toute considération politique, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même une très large diversité d'opinions qui s'expriment, mais c'est ça qui s'est passé. Et Emmanuel Macron, en renforçant en tout cas cette politique de toujours plus de compétition, toujours plus de concurrence entre les individus, a fait émerger en tout cas une prise de conscience.
C'est pas ce qu'il dit dans ses
voeux. Non, c'est pas ce qu'il dit dans ses voeux, mais c'est ce qu'il fait en pratique dans sa politique.
Christine Kerr.
Oui, mais cette cohésion, on ne peut la trouver, on ne peut y arriver que par plus de justice sociale. C'est pas, bien entendu, c'est très bien de se sentir moins seul, plutôt que d'être tout seul devant sa télé, de se réunir à un rond-point, de faire des saucisses grillées, de chanter ensemble, de parler ensemble toute la nuit. C'est formidable
grâce à ça que,
pour
quand même, Emmanuel Macron a un tout petit peu reculé sur un certain nombre de choses et il a fait des propositions.
Non, mais c'est formidable, bien sûr. Ça ne résout pas le problème de fond. C'est-à-dire qui est quoi ? De créer des emplois, et des emplois bien payés, des emplois qualifiés. Et ça passe par l'éducation. Il faut quand même un peu de temps, c'est vrai. Mais peut-être faudrait-il une nuit du 4 mai aussi, que les dirigeants viennent dire, écoutez, je renonce à tel ou tel avantage, que Carlos Ghosn renonce à des primes phénoménales. Peut-être que symboliquement, déjà, ça aurait un intérêt.
J'ai une question à vous poser,
Plantu. Il faut en tout cas écouter ce qui a été dit dans les ronds-points, parce que on n'est pas à la veille de faire ce regard un peu critique sur le CAC 40.
Plantu, est-ce que vous savez qui a dit « l'humanité est malade, elle est tombée plus que jamais dans le déraisonnable » ?
Non, je ne sais pas.
C'est dans votre livre. Dalil Boubacar.
Dans l'entretien que vous avez mené avec lui, excusez-moi. C'est parce qu'il y a un moment, il parle de la dérive des jeunes. Je pensais que vous parliez des Gilets jaunes.
Excusez-moi. Mais ça faisait le lien.
Oui, mais justement,
un monde déraisonnable.
Il parle du côté déraisonnable de certains jeunes qui basculent, et on l'a vu avec Strasbourg, et il me parle justement de ce cœur déchiré qu'il a à chaque fois qu'il y a un attentat, et qui se termine par le mot « Allahu Akbar », et il dit « mais pourvu que ce soit pas encore un musulman ». Et donc il est déchiré de faire ce constat-là. Et c'est là où j'ai beaucoup appris avec le recteur de la mosquée de Paris, c'est que je me suis rendu compte que on parle des frustrations des Gilets jaunes, mais il y a une frustration d'une partie de la population des Français musulmans, et il faut l'entendre aussi. Et j'ai voulu faire ce livre avec le recteur de la mosquée.
10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter.
Ouais. C'est une blague que j'ai voulu faire au recteur, parce que la première fois que, quand je me suis dit, moi j'aimerais bien essayer de réfléchir comment on pourrait faire en sorte qu'il n'y ait pas des gens qui basculent dans le terrorisme, Et je pensais interroger des intellectuels, des professeurs, des religieux. Et puis après, j'ai dit, mais pourquoi je n'irais pas voir le recteur de la mosquée de Paris? Il m'a reçu et j'avais cette couverture avec moi. Et je n'ai pas osé la montrer la première fois que je l'ai vue parce que j'ai attendu la fin de la conversation. Je pensais qu'il allait me prendre 5 minutes comme ça, poliment. Et au bout des 2h30 où je me suis rendu compte, je me suis dit, putain, il me dit beaucoup de choses. Il me dit des choses incroyables. Il me dit des choses sur le salafisme incroyables. Et du coup, j'ai osé sortir ma couverture avec ce gars qui est sur le point de se faire exploser, avec ce titre « 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter ». Et j'ai lui dit « mais ce sera la couverture de ce que je voudrais faire avec ce bouquin, et si vous pouvez m'aider à nourrir cette conversation avec des dessins ». Parce que c'est grâce aux dessins, et quand il montre un dessin que je préparais sur le salafisme avec un comme des paquets de tabac. Alors tabagisme nuit gravement à la santé, c'est des cigarettes qui dépassent du paquet. Et puis dans l'autre, il y a marqué salafisme, c'est un minaret qui dépasse du paquet. Et là, il y a marqué nuit gravement à la laïcité. Non seulement il me prend le dessin, mais il me dit, mais attendez, je vous supplie à deux mains pour revendiquer ce même dessin. Et là, je tombe de l'armoire pendant... On s'est vu quatre fois 2h30. Et à chaque fois, je me disais, mais il me raconte des trucs incroyables sur le wahhabisme. Il me dit, attendez, je reviens de Genève. C'est n'importe quoi. À Genève, il y a les Saoudiens qui sont à la tête de la mosquée de Genève. Et les autorités de Genève ne bougent pas. Il va les voir, tout le monde. Alors justement, je me rends compte que le recteur de la mosquée est un lanceur d'alerte que personne n'écoute. Et c'est là où je me dis... Putain, il me raconte des choses incroyables et personne ne l'écoute.
Alors, parmi les 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter, développer son sens critique, lutter contre l'ignorance, lutter contre l'antisémitisme par la fraternité.
Exact. Et là, il m'apprend un truc incroyable parce que qu'il fasse avec ses amis musulmans des réflexions sur la lutte contre l'islamophobie, ça évidemment je l'entends, mais je ne savais pas qu'il réunissait des rabbins à la mosquée de Paris, qu'il allait voir les juifs, qu'il allait voir ensemble pourquoi dans tel endroit. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans le sud de la France, dans un lycée professionnel. Il y a un gamin qui m'interpelle, il me dit et les autres lui disent non, toi tu te tais, toi t'es le feuge. Alors, je vais voir les profs, après je dis c'est quoi l'histoire. Il me dit non, c'est pas juif, mais il l'aime pas. Alors, il l'appelle le feuge. Je dis attends. Et donc ça veut dire qu'il y a un boulot considérable. Et là on parle de ces sujets qui sont passionnants sur les gilets jaunes, sur le drame qui est arrivé avec les 4 morts de Strasbourg. On se dit mais attends, il y a des frustrations qui se sont installées, il y a des incompréhensions, et je pense que notre démocratie n'est pas prête. Et vous voyez, par exemple, je suis dessinateur, il n'est pas normal que je me balade tous les jours avec des policiers pour me protéger.
Plantu, vos dessins de l'année, publiés dans le journal Le Monde, publiés dans l'Express, qu'on retrouve dans cet ouvrage. C'est une bonne idée de cadeau.
Hein. Alors, en tout cas, c'est un cadeau optimiste. Voilà. Et nous qui avons parlé tout le temps, évidemment, de ce drame de Strasbourg et des Gilets jaunes, pendant ce temps-là, on ne dit pas qu'il y a un dessinateur, parce que c'est les dessinateurs qui sont les révélateurs des basculements de la planète, souvent sans le faire exprès, parce que c'est pas les intellectuels. Au Nicaragua, il y a un dessinateur qui s'appelle Moreno. Et ben, ce dessinateur Pedro Morila, et ben, il est menacé à Managua, au Nicaragua, et son journal vient d'être investi aujourd'hui par la police à Managua. Donc, et pendant ce temps-là, on parle pas du Congo. Pendant ce temps-là, on parle pas de la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps-là, on ne parle pas de beaucoup de sujets qui sont passionnants. Et on a parlé tout le mois de juillet de l'affaire Benalla. C'est ce que je raconte dans le bouquin.
Bon. On va poursuivre ce débat des informés. On va revenir sur le côté révolutionnaire, tiens, de ces gilets jaunes. On en a beaucoup parlé dans cette émission. Avant cela, à 20h51, on fait un nouveau point sur l'info avec vous, Claire Flechel.
Les ronds-points doivent être libérés. Les mots ce soir de Christophe Castaner. La journée se termine bien. Le dialogue doit maintenant rassembler l'ensemble de ceux qui veulent transformer la France, a tweeté le ministre de l'Intérieur. Après cet acte 5 des Gilets jaunes, mobilisation en baisse, 66 000 manifestants, dont 4 000 à Paris. La manifestation s'est encore tenue principalement autour des Champs-Élysées où les forces de l'ordre à la nuit tombée ont évacué tous les Gilets jaunes du secteur. Un rassemblement citoyen demain matin, place Kléber à Strasbourg, en hommage aux victimes de l'attentat de mardi
soir. L'attaque a fait 4 morts. Une cinquième personne est en état de mort cérébrale. Il y a 11 blessés. Par ailleurs, la garde à vue des 4 membres de la famille de Sherif Shekat a été levée. Les parents et 2 de ses frères. La garde à vue se poursuit en revanche pour 3 membres de son entourage proche. L'Aisne, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme placée en vigilance orange, neige et verglas. Météo France attend des pluies verglaçantes dans la soirée sur ces 4 départements des Hauts-de-France. La vigilance est levée pour l'Eure et Loire. Et puis un départ de plus dans l'équipe de Donald Trump. Ryan Zinke quittera à la fin de l'année son poste de secrétaire d'État à l'intérieur. Annonce faite aujourd'hui par le président américain qui ne précise pas les raisons de son départ. Ryan Zinke a été mis en cause à plusieurs reprises pour détournement de fonds publics.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Bon, on n'a pas arrêté de parler de la révolution sur ce plateau hein, depuis tout à l'heure, de la tête du roi. On a entendu les gilets jaunes vouloir marcher sur l'Élysée. D'ailleurs, le palais de l'Élysée a été protégé tout au long de ces samedis, comme on allait chercher le roi à Versailles. Il y a eu de nombreux symboles hein, des gilets jaunes devant, qui sont exprimés devant la salle du jeu de paume à Versailles. On entend ces mots de monarchie présidentielle. Voilà, qu'est-ce qui se passe,
Plantu? Il y a un dessinateur suisse qui s'appelle Hermann, que j'adore, il travaille à Genève. Il a utilisé les lettres du mot Macron. Et quand on les inverse, quand on les met dans un autre sens, c'est monarque avec un C. Et je trouve que c'est génial et ça raconte bien le jeu, parce que le dessin de presse, c'est d'abord un jeu, évidemment. On ne se prend pas au sérieux, on n'a pas les connaissances des journalistes. Mais à la fois, jouer avec les lettres du mot Macron et que ça devienne monarque, je trouve que c'est rigolo.
Enfin, Sarkozy était un monarque aussi, François Hollande à sa façon aussi, Jacques Chirac. Alors lui, il a particulièrement fusionné avec la fonction. C'est ça qui est incroyable d'ailleurs, parce que autant Nicolas Sarkozy que François Hollande ont voulu chacun à leur façon finalement moderniser la fonction présidentielle, du moins je parle dans sa représentation et sa symbolique. Et Emmanuel Macron, voyant que ça avait échoué, a voulu justement se couler dans le moule ultra ultra traditionnel et symbolique, pensant
la présidence de la République.
Voilà. Enfin de la monarchie présidentielle, puisque lui-même avait dit, j'ai cité cette phrase, les Français regrettent d'avoir coupé la tête au roi, sous-entendu, je vais occuper cette fonction symbolique aussi, visiblement. Et d'ailleurs, c'est sans doute très ambivalent dans l'esprit des Français. Et je trouve intéressant, d'ailleurs, cette métaphore révolutionnaire et notamment de la Révolution française. Alors, chaque révolution se nourrit de la précédente. Là, on a l'impression qu'on revit symboliquement 1789. Alors, vous parlez des Gilets jaunes, mais c'est aussi beaucoup la France insoumise hein, qui a été, dès le départ, dès le premier jour de mobilisation, le 17 novembre, dans cette symbolique avec Jean-Luc Mélenchon, qui va place de la Concorde avec des Gilets jaunes marseillais. En plus, voilà, des Marseillais qui montaient à l'époque... aussi pour exécuter et qui joue sur cette symbolique. François Ruffin quand il fait son allocution pas loin du palais présidentiel. Donc voilà, on voit Pierre que c'est un symbole qui a beaucoup circulé.
L'insurrection citoyenne, ça c'est
je ne sais pas si on a la veille d'une insurrection citoyenne ou si on a la veille d'une révolution, d'une nouvelle révolution. En revanche, c'est vrai que
c'est dans
Emmanuel...
le langage.
Non mais ce qui est intéressant dans la période, c'est qu'on voit bien que Emmanuel Macron, quand il décide de faire une nouvelle intervention télévisée pour faire des nouvelles annonces et revenir par exemple sur la taxe carbone, on se dit c'est un blanc-seing effectivement pour continuer la mobilisation et obtenir toujours plus. Et c'est ça qui peut créer les conditions d'une mobilisation d'ampleur. Il y a le mouvement des Gilets jaunes, il y a un agenda social qui arrive. L'agenda social, c'est la réforme des retraites, c'est la réforme de l'assurance chômage, c'est la reprise en main ou en tout cas la continuité du mouvement social par les syndicats. Et ce que je crois, c'est que ce mouvement des Gilets jaunes ne va pas s'arrêter là tout de suite demain. Il va sans doute falloir, en tout cas la gauche a une responsabilité, je le crois, créer des passerelles avec le mouvement social pour que demain il y ait une mobilisation, un rapport de force qui soit beaucoup plus important pour obtenir ce qui a été le cœur des revendications des Gilets jaunes, c'est vivre mieux, avoir de l'argent, travailler sans être un travailleur pauvre. Donc ça veut dire aider le pouvoir d'achat à travers les salaires, ça veut dire que les entreprises du CAC 40 et pas que doivent être mises à contribution. Sans doute faudra-t-il revenir sur la question de l'ISF et que donc tout ça peuvent être des germes, en tout cas porteurs d'une mobilisation plus large.
C'est Sinclair, on est une fois pour toutes un peuple révolutionnaire, voilà, c'est la conclusion.
Oui, bien sûr,
de cette
mais en même
séquence.
Temps un peuple très monarchiste, parce qu'en fait nous vivons une alternance à chaque fois. Je voudrais revenir sur ce que disait Hélène. Quand Giscard d'Estaing arrive, après De Gaulle, eh bien, les gens veulent du plus détendu. Donc, il arrive à pied, il ne met plus un habit, il fait détendu, il fait jeune, il fait genre Kennedy.
Il met un pull.
Il met un pull. Bon, après, et là, on a eu un président qui a voulu être normal, Hollande, et bon, on en avait marre. Il était mal habillé, il était sur son scooter, et finalement, on avait envie d'autre chose, donc un monarque. Et puis, on a à peine le monarque, on veut lui couper la tête. Donc, le prochain, il sera peut-être Jean Ruffin. Il arrivera peut-être en survêtement.
Ils sont tous décidés tout seuls.
Il voudra plus être à l'Élysée. Il voudra être dans un HLM.
Mais les Insoumis veulent plus de président de la République.
Christine Claire, mais cela dit tous.
Alors là, je voudrais bien voir Mélenchon refuser le poste. Je voudrais le voir.
Christine Claire, tous, cela dit tous.
Le mot de la confusion. Le temps nous presse. Le mot de la confusion.
Je me souviens que Mélenchon était quand même assez attendait d'être un grand proche de François Mitterrand. Et qui se souvient de François Mitterrand quand il rencontrait dans une pièce à l'Élysée? Il y avait l'aboyeur qui disait le président de la République.
Oui,
et tout le monde se taisait. Et moi, je me suis dit, mais j'ai pas connu Louis XIV, mais j'ai connu Mitterrand. Oui.
Je remercie nos informés du soir. On est obligé de se quitter. Hélène Risser, Public Sénat, on vous retrouve dans l'émission hashtag. Christine Claire, je renvoie à votre livre. J'ai vu 5 présidents faire naufrage aux éditions Robert Laffont. Je remercie Plantu, que l'on retrouve tous les jours à la Une du Monde, dans le quotidien L'Express, en librairie. Belle idée de cadeau. 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter aux éditions du Seuil. Je remercie également Pierre Jacquemin, le trimestriel Regard et le site regard.fr. À la réalisation ce soir, Damien Sangali, à l'édition Louis Mondeau. À suivre la météo, l'info, et comme d'habitude, on reste en contact sur franceinfo.fr. Bonne soirée.